L'un des plus importants, ça va être tout ce qui va être lié à l'inflammaging, au vieillissement par oxydation, c'est-à-dire le plus souvent dû à l'hyperinsulinisme. Donc, je pense qu'un des paramètres les plus intéressants, ça va être tout ce qui va être autour du métabolisme du sucre. Le qui est un signe assez précurseur et précoce de l'insulinorésistance. Et le bilan biologique n'a d'intérêt que quand il va être confronté à différents paramètres, comme par exemple également des bilans d'imagerie. L'inconvénient des dosages de ces micronutriments, c'est qu'il y a des variations, ça bouge pas mal. Pas non plus être trop obsessionnel des micronutriments. Par exemple, il y a des personnes qui, sous prétexte qu'on leur dit qu'on est carencé en sélénium, ils vont se manger des tonnes de noix du Brésil. Manquer de sélénium, c'est une pathologie, mais avoir trop de sélénium, c'est une pathologie aussi.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Salut à tous. Juste pour vous dire qu'on aura le plaisir de vous retrouver au sommet de l'hypersanté qui aura lieu le 21 et 22 mars 2026 à Paris. On y animera un atelier sur l'activité physique, les clés de l'entraînement sur la longévité. J'y serai avec Vincent et Alexandre, bien entendu, mais vous retrouverez également tout un tas de passionnés sur la longévité et la santé, des médecins, des nutritionnistes, des chercheurs. Un très beau programme. Je vous laisse consulter, on mettra le lien du site en description et on a un code promo pour ceux que ça intéresse pour l'événement. N'hésitez pas à nous y retrouver. On se voit à Paris le 21 et 22 mars 2026. Ciao tout le monde.
Allez, bienvenue à tout le monde sur un nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler biohacking, longévité. Salut Denis, bienvenue sur 1000%.
Salut Vincent, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là.
On va se régaler aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient à cœur sur 1000%. On a le sommet de l'hypersanté sur lequel on va pouvoir se rencontrer en vrai, Denis. C'est vraiment un événement exceptionnel et en partie, tu viens sur 1000% pour parler de cet événement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse de ce sommet de l'hypersanté, ta place dans ce parcours?
En fait, c'est issu d'une rencontre. Alors d'abord, d'une rencontre de deux personnes que je trouve extrêmement talentueuses, Anna et Dunette, que je salue, qui sont des passionnés de santé, de longévité, de biohacking, de cette vision un peu globale du monde de la santé. Et en fait, eux, ils sont allés à des congrès internationaux, ils se sont rendus compte que ça n'existait pas en France. Et alors, comme quoi le hasard parfois fait des merveilles. En fait, on s'est rencontrés, Anna Dunette et moi, dans un congrès de biohacking en Hollande, à Amsterdam. Et on a matché. Et voilà, bon, quand ils ont eu l'idée de créer ce congrès, donc ils ont appelé l'hypersanté, je les ai un petit peu au début aidés. Alors, je donnais quelques conseils. J'ai été parrain du premier événement. Et puis, j'ai donné des contacts pour trouver quelques conférenciers, mais enfin vraiment, voilà, j'ai une toute petite action, tout le mérite, je reviens entièrement à Dunette et Anna, et ensuite ils ont pris un envol extraordinaire, ils se sont donnés à fond, il y a une deuxième édition à Lyon, malheureusement j'étais pas là, et là ils font une grosse édition de 2 jours à Paris, mais je pense que ça va être vraiment vraiment chouette. Ce qui est bien, c'est que au début ils tâtonnaient un peu, ils savaient pas trop comment organiser tout ça entre les laboratoires, les appareils de technologie, etc., et les différents intervenants. Là, ils ont acquis une super expérience et je pense qu'on va passer un très très bon moment.
Ah, nous, on a vécu la deuxième édition, tu vois, on se complète, Denis. C'était vraiment exceptionnel, vraiment par les conférences, par la qualité des conférenciers, mais aussi par la connexion entre les gens. C'est à la fois des professionnels et aussi des passionnés de la santé, des gens curieux. Et on a été très surpris par la bienveillance et vraiment la connexion entre chacun. Donc, on encourage tous les auditeurs de 1000% à, s'ils sont là le 21 et 22 mars sur Paris, à venir faire un tour. C'est vraiment très, très enrichissant. Présente-toi un petit peu sur ton parcours, qui tu es et comment tu es arrivé tout doucement au biohacking et à la longévité.
Ok, donc moi, Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur. C'est mon métier que j'exerce. D'ailleurs, là, je sors de garde. En fait, c'est marrant parce que très souvent, je tourne les podcasts les mercredis parce que c'est une journée où je travaille pas. Et comme je suis de garde dans la nuit de mardi à mercredi, à chaque fois, je répète quand je fais un podcast, je sors de garde. Mais en fait, peut-être que les gens ont l'impression que je suis tout le temps de garde. Plaisanterie à part. Donc, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur dans une clinique parisienne et je me suis toujours intéressé à la santé dite corps-esprit, une vision assez globale. Ça m'a conduit à m'intéresser à l'hypnose hein, jusqu'à devenir instructeur en hypnose. Ça m'a conduit à m'intéresser au coaching jusqu'à avoir deux certifications en coaching santé, une que j'ai faite dans une école en Suisse et une que j'ai faite en France. Et puis ensuite, il y a à peu près une dizaine d'années, ben j'avais à peu près 40 ans. Et puis je me suis dit, ben tiens, je vois un peu les personnes de la génération de mes parents devenir malades, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas finalement chercher à utiliser nos techniques médicales pour prévenir les maladies liées à l'âge? Et donc j'ai découvert à l'époque qu'il y avait un diplôme universitaire à l'université Paris 5 sur 2 ans, qui s'appelait le diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge. Donc c'était une formation très intéressante, mais qui était, on va dire, 3 quarts esthétique et 1 quart anti-âge. Mais j'ai vraiment trouvé que l'aspect anti-âge était super intéressant, surtout qu'en particulier en enseignant, on avait Vincent Castronovo, ben, que tu connais aussi. Donc c'était très très intéressant. Donc tu vois, c'était il y a 10 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'anti-âge, la longévité, etc. Donc bien avant que ça devienne à la mode. Il y a quelques années, je ne saurais pas te dire, peut-être 5 6 ans, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau diplôme de médecine anti-âge qui sortait. C'était à l'université Paris 12, organisé par Claude Dalle, qui était un de mes mentors, qui malheureusement est décédé, qui a été un des pionniers dans la médecine anti-âge en France. Et l'année dernière, j'ai passé aussi un diplôme de médecine et biologie de la longévité à Lille. Donc, je n'arrête pas de me former. C'est un domaine qui me passionne. Et voilà, donc, je pense avoir couvert tous les diplômes universitaires qui existent en France sur le sujet. Et je continue à trouver ça génial. Alors, évidemment, en France, on a énormément de retard par rapport aux États-Unis. Et j'ai beau avoir des diplômes, humblement, je me considère comme un jeune apprenti par rapport à tout ce qui est fait aux States. Enfin, on a énormément de retard. Mais bon, bon an, mal an, on va se rattraper. Et finalement, je me suis dit, si on allie la médecine anti-âge, la longévité, la performance, le coaching, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser un peu plus de technologie? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une recherche d'optimisation? Et c'est là que, en fait, en discutant avec un ami, il m'a dit, bah, en fait, ce dont tu me parles s'appelle le biohacking, vas-y, lance-toi. Et donc, je te dis, c'était il y a, ouais, 5 ans à peu près, 5 6 ans. Donc, j'ai écrit à l'époque le premier livre en français sur le biohacking, et puis voilà, je développe. Biohacking, c'était un terme personne ne connaissait, en fait, il y a 5 6 ans. Maintenant, tout le monde parle biohacking. Et pareil, la longévité, maintenant, tout le monde se met à la longévité. Mais tant mieux, c'est super cool. Au contraire, je trouve que c'est magnifique qu'il y ait enfin cette prise de conscience, et ça a mis énormément de temps. Je te dis, ça fait 10 ans que je m'interroge et que ça bouge.
Pour les auditeurs de 1000%, on parle souvent de longévité, de la puissance de notre mode de vie. Tu vois, moi, une de mes prises de conscience avec Peter Attia, sa chaîne YouTube, Huberman et le livre de Peter Attia, Outlive, qui est pour moi fondateur dans ma prise de conscience. Et par contre, on parle un peu moins de biohacking sur 1000%. Est-ce que tu pourrais définir vraiment les deux termes entre longévité et biohacking?
Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet de l'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026.
Ben, je dirais que la longévité, c'est l'objectif. Le biohacking est un des outils. En fait, le biohacking, c'est plus un concept que une notion très stricte, hein. Le biohacking, c'est hacker sa biologie, prendre le contrôle de sa biologie. Alors, je donne toujours l'exemple des bodybuilders. Pour moi, les bodybuilders sont des biohackers, mais eux, ils hackent leur biologie dans une idée de performance, gagner du muscle, etc., éventuellement au détriment de la longévité. Eux, leur objectif, c'est gagner du muscle. On peut utiliser le biohacking pour être bien, pour gérer son stress, pour vivre plus longtemps. En fait, le biohacking, c'est juste un outil, c'est juste un concept. En fait, globalement, moi, j'aime bien dire qu'il y a trois étapes dans le biohacking. Un, déterminer les déséquilibres. Deux, les corriger. Et trois, optimiser si on peut optimiser. Globalement, c'est ça l'idée. La longévité, c'est une des possibilités du biohacking. Le biohacking n'est qu'un outil parmi tant d'autres. C'est pas un objectif en soi, le biohacking. Après, chacun a un peu sa définition. Comme c'est un mot qui est à la mode maintenant, n'importe quel coach sportif qui médite nu sous une cascade, il dit qu'il fait du biohacking, ben, s'il veut. Mais le biohacking, c'est pas de la naturopathie. Il y a énormément de confusion parce que le terme est à la mode. Beaucoup de personnes disent que ou estiment que le biohacking, c'est de la naturopathie, mais c'est absolument pas de la naturopathie.
Donc le biohacking, en fait, c'est tous les outils de mesure qui sont à disposition. Donc, une montre connectée, un capteur de glycémie,
Google.
Des bilans biologiques. Pour toi, ça ferait partie des outils de biohacking?
Oui, en fait, il y a pas de limite. On appelle parfois, même si lui-même ne se revendique pas ainsi, Brian Johnson, le biohacker de l'extrême. En fait, si on pousse vraiment le bouchon, et je dis pas qu'il faut pousser le bouchon aussi loin, mais le biohacking à l'extrême, c'est ça, c'est se faire des prises de sang tout le temps, être traqué tout le temps, avoir des examens biologiques tout le temps. C'est ça, en fait, si on va dans l'extrême, évidemment, je conseille à personne d'aller jusque-là, et moi-même, je ne devais absolument pas jusque-là. Mais en tout cas, le fait d'avoir des trackers, le fait d'avoir des métriques, en fait, il y a une phrase qui est pas de moi, mais je trouve très intéressante, c'est on ne peut optimiser que ce que l'on peut mesurer. Et surtout, mesurer autant que possible avec précision. Donc, les capteurs connectés, c'est très bien, en sachant que les capteurs connectés donnent des valeurs absolues qui sont pas justes de toute façon, parce que c'est très compliqué de faire du monitoring. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est plus les variables. Si on a un capteur qui nous dit qu'on a une VO2 max à temps, on s'entraîne et après la VO2 max a augmenté, là ça a peut-être du sens. Mais je veux dire, le chiffre absolu n'a pas beaucoup de valeur. Mais en tout cas, le fait d'utiliser comme ça de la technologie ou de la biotechnologie, bien sûr que c'est du biohacking, évidemment.
Donc,
Puisqu'on va hacker
comment toi
notre
tu vis
biologie.
ta ton biohacking? Alors, quels sont les outils que tu pourrais donner aux auditeurs de 1000%? Parce que voilà, l'objectif c'est d'aller à 1000%, c'est voilà, c'est le chemin qui compte, hein. Quels seraient les outils de biohacking que tu pourrais donner à nos auditeurs?
Après, il y a des choses extrêmement simples. Évidemment, on peut parler des bagues type Bagura. Encore, moi, je suis plutôt de la team Ultra Human. Les bracelets Whoop, je trouve ça super. Le capteur, pardon, ah bah voilà, ok. Le capteur de glycémie, on peut être pour, on peut être contre. Il y a des avantages, des inconvénients, mais ça fait partie aussi du biohacking. Après, le fait d'aller faire des tests fonctionnels qui sont pas des tests médicaux comme la VO2 max ou le DEXA scan, ça aussi, c'est des outils de biohacking. Et puis après, il y a évidemment toutes les prises de sang à la recherche de paramètres qui ne sont pas usuellement cherchés en médecine générale, je dirais, et qui sont un peu plus précis et qui vont chercher, je dirais, des marqueurs plus précoces à la recherche peut-être de signaux faibles, très en amont.
Et tu sais, là, le biohacking, bah, ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens et ça peut aussi en rebuter pas mal où on se dit, ah, mais ça peut être anxiogène, autant de mesures,
Bien sûr.
beaucoup de contrôle. Qu'est-ce que tu répondrais à cette remarque?
Alors moi, je répondrai à une chose très simple, hein. C'est le biohacking qui doit s'adapter à la personne et pas à la personne qui s'adapte au biohacking. Ceux qui adorent être connectés dans tous les sens, là, l'autre jour, j'ai vu un gars, il avait, véridique, hein, une Bagura à un doigt, une bague Ultra Human à un autre et trois montres connectées et un capteur de glycémie. Ok, great. C'est cool. Moi, jamais je ferais ça. Et pourquoi pas? Le plus important, c'est d'être en phase. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une Bagura qui me dit t'as bien dormi ou t'as mal dormi. Le matin au réveil, je sais si j'ai bien dormi ou si j'ai mal dormi. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Si on pense que c'est utile, si on y voit un avantage, oui, bien sûr que c'est utile. Mais en fait, il faut vraiment être simple et être basique.
Ok. Moi, tu vois, j'aime bien me mesurer, j'aime bien comprendre, explorer ma santé pour pouvoir la partager aussi aux gens que j'accompagne. Ce que je dirais, c'est que ces outils de mesure, c'est une façon de s'explorer, de mieux se comprendre et de gagner en connaissance et en conscience de sa santé. Et puis après, tout dépend de la personnalité de chacun. Si on aime
Bien
bien
sûr.
se mesurer, si on aime bien se suivre, pourquoi pas garder ces outils de mesure ou sinon, en cycle, de périodes éphémères pour vraiment mieux appréhender bah, son sommeil, sa capacité d'entraînement, de charge d'entraînement ou d'autres mesures. L'idée, c'est vraiment de gagner en conscience pour après le confronter à son ressenti.
Oui, non, mais tout à fait. De toute façon, toute obsession devient délétère. Je veux dire, si on utilise les métriques pour sauver sa santé et que ça devient anxiogène, que ça est une source de stress, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, là où je te rejoins tout à fait, c'est au niveau de la prise de conscience. Tu vois, par exemple, moi en ce moment, je refais quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, mais parce que voilà, ça m'amuse de temps en temps de refaire un point. J'utilise une application qui compte mes calories. Voilà, j'avais envie de revérifier un peu mes calories entrantes et sortantes. Et ben, ça m'a fait prendre conscience d'un truc assez dingue. Hier, j'ai juste pris un petit peu de foie de morue, tu vois, et j'ai fait ça cool, quoi. Je me suis dit, bah tiens, ça va être mon entrée. Et en fait, j'ai découvert que juste ce que j'ai pris de foie de morue, pourtant c'était pas énorme, ça dépassait les 500 calories. J'avais même pas fait gaffe à ça. Donc c'est intéressant en fait de prendre conscience de certaines de nos habitudes que l'on pense être saines, que l'on pense être bonnes pour notre santé et qui finalement sont potentiellement délétères. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de garder la conscience de ce qui est bon et de ce qui est excessif.
Tu utilises quoi comme application pour compter tes calories?
Fat Secret.
Ok. Et ça se présente comment? Tu prends des photos de tes repas, ce genre de choses?
Non, 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 non. Avec l'expérience, je sais à peu près quel est le poids de tel. Voilà, quand je prends par exemple du poulet, je sais que j'ai à peu près 200 grammes, 250 grammes ou des choses comme ça.
On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code Podcast 1000 pour une réduction. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code Podcast 10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Et comment tu expliques, Denis, le fait que toi, à la base, tu es médecin, anesthésiste, réanimateur, et pourquoi tu t'es dirigé vers ce biohacking, vers cette envie de longévité?
Déjà, comme je t'ai dit, c'était à l'approche de la quarantaine. Voyant, voilà, mon père a eu un premier cancer quand j'avais, je sais plus quel âge j'avais, mais moi, ouais, j'ai été touché par ce qui se passait autour de la famille. Puis, je dirais, je sais pas, est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou la prise de conscience de la quarantaine? Donc, je me suis intéressé à ça. Et au début, c'était assez une recherche personnelle. Et puis c'est vrai que ben, en tant qu'anesthésiste, forcément on est très intéressé par la prévention, parce qu'en tant qu'anesthésiste réanimateur, on n'est plutôt pas mauvais en physiologie, on n'est plutôt pas mauvais en pharmacologie, on sait à peu près comment fonctionne le corps humain, et donc ça m'a vraiment intéressé d'utiliser toutes ces connaissances pour comprendre aussi le pourquoi du vieillissement et le comment éventuellement le combattre. Tu vois, tout à l'heure, tu mentionnais le sommet de l'hypersanté. Donc voilà, il y a différentes thématiques que je pouvais proposer, et on m'a proposé de parler de l'effet positif et négatif du stress sur le vieillissement. Et en fait, pour la petite histoire, c'était le sujet déjà de mon premier diplôme universitaire sur la médecine anti-âge. Donc ça fait, tu vois, ça fait 10 ans que je m'intéressais déjà aux effets des pensées ou des émotions sur le vieillissement, tu vois. J'aimais bien la phrase un peu bullshit, mais finalement que je trouvais très pertinente, de dire être jeune ou être vieux, c'est dans sa tête. Et en fait, c'est partant de cette phrase que je me suis dit, ben, est-ce que c'est vrai? Et donc, j'avais fait à l'époque toute la biblio pour me rendre compte qu'effectivement, c'était vrai. J'étais beaucoup intéressé à l'époque par les effets du stress sur les télomères. Hein. C'était les travaux d'Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine. Donc, c'était les premiers éléments qui m'ont fait m'intéresser aux mécanismes du vieillissement et comment contrer les mécanismes du vieillissement.
Ce stress, on va arriver à l'hormèse, tu vas pouvoir nous définir ce magnifique pouvoir que l'être humain a à disposition. Est-ce que c'est du biohacking de stimuler par le stress hormétique, par l'hormèse? Est-ce que c'est une façon de jouer avec le biohacking?
Bah oui, par définition, oui, parce que c'est un moyen finalement de hacker notre biologie. En fait, hacker notre biologie, c'est la suivre et l'utiliser à notre avantage. Faire de la musculation, c'est finalement quelque part du biohacking d'une certaine manière, parce que on va par le mouvement, par le stress, je dirais, de nos fibres musculaires, on va les amener à être plus fortes, à se renforcer. Donc finalement, le concept de donner je dirais du mal ou un stress, quel qu'il soit, l'organisme pour le rendre plus fort, c'est un concept qui est très très ancien, puisque là tu parles d'hormèse et les pratiques hormétiques sont très anciennes, que ce soit le jeûne est une hormèse, l'exposition au froid est une hormèse, l'exposition au chaud est une hormèse, le HIIT, donc l'entraînement d'intensité est une hormèse, la musculation est une hormèse, la vaccination est une hormèse. Donc finalement, l'idée d'obliger notre corps à travailler mieux et plus fort, quelle qu'en soit la méthode. L'hypoxie est une hormèse, même si je trouve que c'est un peu dangereux, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui oblige notre corps à vivre dans des conditions différentes de l'habitude le renforce. C'est ça en fait l'hormèse. Et donc en certaine manière, à partir du moment où on va hacker notre biologie avec ça, on fait du biohacking.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast.
L'hormèse pour nos auditeurs, c'est d'appliquer une stimulation, quelle qu'elle soit, pour créer une adaptation, qu'elle soit physique, cognitive ou émotionnelle. On pourrait rajouter la respiration, la méditation, juste même
Bien
la
sûr.
façon dont on se parle aussi. Hein, c'est créer aussi une capacité, une résilience mentale. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme moyen pour stimuler ton corps?
Alors, je déteste les douches froides, même si je dis que c'est vachement bien, j'ai horreur de ça. Moi, ma petite douche, c'est mon petit moment, j'ai aucune envie de prendre une douche froide. Par contre, faire les bains glacés en mode Wim Hof, ouais, ça, je trouve ça plutôt cool. Le sauna, ouais, je trouve ça plutôt cool. La muscu, oui. Parfois le HIIT, aussi. C'est le genre d'hormèse que j'utilise. En fait, ce qui est intéressant par rapport à l'hormèse, c'est de comprendre vraiment le mécanisme. Parce que, en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où notre corps, ou notre esprit, mais on va dire notre corps, parce que finalement notre esprit c'est la même chose, notre corps, enfin notre esprit c'est jamais qu'une émanation de notre cerveau, donc c'est purement biologique. On a l'impression que l'esprit c'est quelque chose d'un peu fantasmagorique, mais non, l'esprit c'est une émanation de notre cerveau, donc c'est de la biologie. Donc à partir du moment où notre biologie nécessite une utilisation d'énergie par nos cellules, on va demander, parce qu'on sort de notre cadre de confort, on va demander à nos cellules de produire plus d'énergie. En fait, c'est ça l'hormèse. C'est juste chercher à obliger nos corps, pour un petit instant éventuellement, à développer plus d'énergie. En fait, quand on se penche au niveau cellulaire, et je pense que c'est vraiment ça qui est important pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'est l'hormèse. Parce que parfois, on a l'impression que c'est juste un truc un peu ésotérique, un peu bullshit, mais non, il faut comprendre que l'hormèse, c'est vraiment au plus profond de nos cellules. En fait, dans nos cellules, il y a un organite intracellulaire qui est passionnant, qui, moi, me fait kiffer, s'appelle la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un organite qui est là pour créer de l'énergie, fabriquer de l'énergie sous forme d'une molécule qui s'appelle l'ATP. Et en fait, plus on va chercher à produire de l'ATP, plus nos mitochondries vont produire des oxydants, parce qu'en fait, quand la production d'ATP entraîne, je vais être assez simpliste, mais la création d'ATP va entraîner un tas d'oxydants. Et pour éliminer ces oxydants, la mitochondrie va utiliser ce qu'on appelle les antioxydants. Les fameux antioxydants, c'est ça, ça sert juste à négativer les effets de ces oxydants. À partir du moment où on demande à notre corps de produire plus d'énergie, on exige de nos mitochondries qu'elles produisent plus d'ATP. Donc si elles produisent plus d'ATP, elles produisent plus d'oxydants. Et donc forcément, elles sont obligées de créer beaucoup d'antioxydants pour contrer tout ça. En fait, on oblige notre corps à produire beaucoup d'antioxydants et à s'adapter à l'arrivée d'une oxydation. Et c'est comme ça, en fait, que on développe l'hormèse. C'est parce que l'on appelle la mito-hormèse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au niveau de la mitochondrie pour comprendre ce qu'est l'hormèse.
Et il n'y a pas le fait de tout le temps vouloir se stimuler. Moi, j'entends le fait d'appliquer une stimulation pour que notre corps réagisse, nos cellules réagissent, nos mitochondries produisent plus d'énergie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un plafond à trop stimuler notre corps, trop stimuler nos cellules et nos mitochondries?
Bah, ça, c'est difficile à dire. De toute façon, le plafond, quand on parle par exemple musculation, quand on va jusqu'à l'échec, ben ça y est, on a atteint le plafond. Mais c'est pas parce qu'on a atteint le plafond une fois qu'on n'ira pas plus loin une autre fois, ou au contraire que le plafond sera atteint. En fait, y a tout dépend des circonstances. On peut pas dire qu'on a un état fixe et que en fait, il y a toujours un tas de variations en plus ou en moins. Ce qui est sûr, c'est que tant que notre corps résiste, on est capable d'aller plus loin. Le corps est étonnamment résilient. Tu le sais, t'es instructeur Wim Hof. Le corps est étonnamment résilient. Il y a plein de personnes qui disent, mais jamais je vais arriver, et que finalement ils se mettent dans l'eau glacée et ils sont OK avec ça. Et par contre, une fois ils sont OK, mais peut-être une semaine plus tard, ils n'ont pas le même état d'esprit, et à peine ils mettent un petit bout d'orteil dans le froid, ils disent, voilà, je peux plus. Donc, c'est la limite, je dirais, elle est extrêmement intrapersonnelle.
Là où je voulais t'amener, c'est que je vois en fait tous les principes hormétiques comme un entraînement. En fait, on s'entraîne à travers le froid, à travers le chaud, à travers la musculation, à travers faire un jeûne, à travers lire un bouquin ou apprendre une langue qui est difficile. C'est encore un stress qui nous pousse à augmenter nos capacités.
Bien sûr.
Mais on a aussi cette variation entre stimulation et récupération qui nous permet aussi de créer de l'adaptation. Donc on a toujours un équilibre à trouver entre la stimulation qu'on applique et puis les temps de repos pour qu'on puisse créer l'adaptation.
Oui, bah de toute façon, le corps est bien foutu. Il est quand même très très résilient, mais tu le sais bien, quand tu vas à la muscu, que tu vas trop fort, ben si tu vas trop fort, t'as mal, t'as des douleurs, t'as des courbatures. Donc le corps, il sait te dire stop. De la même façon, quand tu pousses un peu le bouchon, le corps, il sait te dire stop. Quand tu vas dans le froid, et que quand tu sors du froid, à limite, t'es mal parce que t'as vraiment du mal à te réchauffer, t'es limite en hypothermie. Moi, je l'ai connu une fois, je suis allé un peu trop dans le délire pour l'exposition au froid. J'ai mis vraiment longtemps à me réchauffer, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, waouh, je suis allé trop loin là.
Oui, c'est comme tout. Ils définissent bien, tu vois, dans la méthode Wim Hof, donc l'hormèse, donc placer une stimulation qui est OK à l'instant T avec nos capacités d'adaptation. Et puis, si on dépasse l'intensité ou le volume de la stimulation, on va plutôt basculer dans le traumatisme. Donc, c'est peut-être ce que tu as vécu à travers un bain glacé qui était un petit peu trop long, ou si on fait
Bien
une
sûr.
course un petit peu trop longue et qu'on n'a pas cette capacité à endurer une course aussi longue. C'est vraiment notre
Ouais.
capacité à gérer tout ça.
Bah en fait, tu vois, par exemple, c'est pas plus tard que avant-hier, j'ai soulevé un poids qui était bien supérieur, je pense, à ma capacité. Je suis instantanément devenu tout rouge, j'avais les tempes qui battaient, et j'ai dû m'asseoir, j'ai dit waouh, putain, je suis allé trop loin là. Et j'ai attendu un petit peu avant de retrouver une tension normale. Donc, oui, bien sûr. Mais l'important, et tu vois, on revient à la sagesse, à la sagesse ancestrale, Gnotis et Autone, connais-toi toi-même, comme c'était écrit sur le fronton à Delphes. L'important, c'est de se connaître soi-même et de respecter ses limites. L'idée, c'est toujours aller repousser ses limites, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut quand même pas. On parle de longévité, même si je considère pas, puisque ça, sinon je n'aurais pas la vision longévité, que le vieillissement est une obligation, mais d'une manière très claire, faut être quand même honnête. Même si on peut peut-être un peu ralentir la vitesse du vieillissement, même si on peut faire en sorte de limiter la casse, voire peut-être de ralentir un peu le vieillissement. On est quand même tous avec un corps qui vieillit de toute façon, mis à part les transhumanismes très fantasmatiques qui s'imaginent qu'ils vont vivre jusqu'à 150, 200 ans, voire ne jamais mourir. Je pense que d'une manière très très claire, on est tous à peu près conscients qu'on va mourir un jour, qu'on va vieillir un jour et qu'on va mourir un jour. La question, elle n'est pas, à mon sens, de vivre jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Moi, je fantasme absolument pas à l'idée d'aller vivre aussi longtemps que Jeanne Calment. Actuellement, il suffit de regarder autour de nous, hein. Globalement, les gens vont à peu près correctement et à 80 ans, c'est la bascule. Il y a une première bascule qui est vers 50-55, puisque un Français sur deux a une maladie chronique à partir de 50-55 ans. Donc déjà une première bascule, mais une grosse bascule à 80 ans. Globalement, autour de toi, tu peux voir, même par rapport à tes patients, jusqu'à 80 ans, ça va à peu près. Après 80 ans, c'est la débandade. Je pense que le premier objectif de cette médecine de la longévité, c'est de décaler d'une dizaine d'années. C'est de se dire que la bascule vraiment due, elle sera peut-être à 90. Alors peut-être que la science ira encore plus vite, mais en tout cas, c'est vers ça qu'il faut tendre.
Moi, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué dans le livre de Peter Attia, Outlive. Il dit: quels sont les objectifs que vous placez pour vos 10 dernières années de vie? Et c'est à
C'est
partir de cette conscience-là
la
que
marginale décade. Ouais, le décathlon du centenaire, là, du centenaire, la marginale décade. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup Peter Attia, pas uniquement parce qu'on a la même coiffure, mais j'aime beaucoup Peter Attia. Je me reconnais bien dans ce qu'il raconte. Même si, allez, on va faire un peu d'autopromo. Je pense que le livre que je vais sortir sur la longévité est bien meilleur que le sien. Mais bon, ça, c'est un point de vue très personnel.
Ah oui,
Mais en tout cas, oui,
tu places la barre haute alors.
en fait, je le trouve très très bien, ouais, au niveau du concept, mais finalement, il donne pas vraiment beaucoup de clés réelles activables, à mon sens. Et puis, bah, c'est très américain, et puis il raconte surtout sa propre expérience, en fait. Donc voilà, enfin, bon, c'est une critique constructive, hein. Je suis pas le seul à dire ça, hein.
Oui, c'est, je pense, un livre de prise de conscience. Voilà, il place les conditions des modalités des maladies chroniques, comment elles se mettent en place, quels sont les moyens qu'on a pour lutter contre ça. Peut-être que le fait que ça soit pas très pratique avec des outils très concrets. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins.
Voilà, moi je trouve ça, et donc voilà, je te dis, histoire de faire un peu d'autopromo, mais le bouquin que je suis en train de sortir, c'est vraiment du concret, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il a un gros avantage de faire une prise de conscience, Peter Attia, et ça c'est super. Mais voilà, enfin, personnellement, par rapport à la qualité du mec, je m'attendais à un livre un peu plus intéressant. Alors, par contre, ce qui est un peu plus pratico-pratique, mais ça, il faut débourser 2 500 $, c'est la formation qu'il fait sur un an. Mais évidemment, le bouquin, c'est pour aller acheter sa formation. Pas petite parenthèse.
Après, il a aussi plein d'épisodes de podcasts qui sont
Ah
gratuitement
oui,
accessibles.
ah complètement.
Il
Non,
a
mais
tous ses
absolument
collègues,
pas du tout.
Huberman et consorts.
Ouais, bah Huberman, moi j'attends avec impatience le livre d'Huberman, La Protocole, qui à mon avis lui sera extrêmement pratico-pratique. Il sort en septembre, je crois.
Et donc là, pour revenir sur le sommet de l'hypersanté, toi, tu vas intervenir du coup sur l'hormèse, comment appliquer un bon stress. En fait, tu vas venir nous impacter sur la science de l'inconfort.
Oui, la source de l'inconfort. Déjà, expliquer ce qu'est le stress, parce qu'en fait, le stress, on dit un peu tout et n'importe quoi sur le stress. Il y a quelque chose quand même qui me fait un peu à la fois hurler de rire et lever les yeux au ciel, c'est les gens qui parlent de lutte contre le stress. Je trouve ça tellement bullshit de dire ça. C'est comme dire on va lutter contre notre respiration ou on va lutter contre nos battements cardiaques. En fait, c'est ridicule. On ne lutte pas contre le stress. Le stress, il est là de toute façon. Tout le monde est stressé dans notre société, et je dirais même tant mieux. Tant mieux parce que ben, si on n'avait pas de stress, on ne serait pas vivant. Si on est stressé, c'est tout simplement parce que il y a une sélection qui a été faite au niveau de nos lointains ancêtres Cro-Magnon, et en fait, tous ceux qui n'avaient pas assez de stress, ben, ils se sont fait bouffer par le tigre à dents de sabre, où ils n'ont pas réussi à courir après l'antilope, hein, et ils sont morts. Donc de toute façon, les seuls qui ont survécu, c'était les plus stressés de la bande. Et nous, on descend des Cro-Magnons les plus stressés de la bande. Donc, comment on peut s'étonner nous-mêmes d'être stressés? C'est normal, c'est une question de sélection naturelle.
Oui,
Donc, l'idée,
après,
c'est pas de
vraiment
lutter contre le stress, c'est le comprendre et l'utiliser à bon escient. Mais on lutte pas contre le stress, c'est bullshit, ça.
pour nos auditeurs, je pense que vraiment la notion de stress et de stimulation, c'est deux choses différentes et c'est très vite
Non,
à assimiler
le
à.
stress est une stimulation. Le stress est une stimulation. C'est juste un mot, le stress. Le stress, c'est à la fois l'extérieur qui s'impose à soi et la réaction de notre propre corps à cette agression extérieure. Mais par essence, le stress est un mécanisme de survie à quelque chose, à quelque chose qui est là pour déranger notre inconfort. Donc, utiliser le terme stress ou stimulation, pour moi, c'est exactement la même chose. Après, il y a ce qu'on va appeler le e-stress, qui sera le bon stress, et le distress, qui sera le mauvais stress, si tant est qu'on puisse appeler bon et mauvais. Mais il y a un stress qui va nous donner de l'énergie, qu'on peut appeler le e-stress. Il y a un stress qui va plutôt chercher à nous abattre, parce qu'il va devenir chronique, c'est ce qu'on appelle le distress. C'est comme ça que l'avait un peu catégorisé Hans Selye, qui était le premier scientifique à vraiment travailler sur le stress.
Oui, c'est ce que je voulais dire pour nos auditeurs, c'est que le stress, comme on le connaît dans la vie de tous les jours, c'est plutôt un stress chronique qui est délétère, et notre corps est plutôt fait pour répondre à des stress ponctuels et passer d'un mode à l'autre plutôt que d'être dans une zone grise ou un stress chronique.
Oui, mais je reviens sur nos ancêtres cro-magnons. En fait, on a le même système de lutte contre l'agression que nos ancêtres cro-magnons. C'est juste qu'à l'époque, quand nos ancêtres cro-magnons ils dormaient, ils devaient être tout le temps en alerte parce que entendre le bruissement d'un buisson, ça pouvait signifier qu'il y avait un prédateur qui se cachait derrière le buisson. Et il fallait réagir par rapport à ça. Le problème, c'est que maintenant, nous, notre stress du jour, ben, c'est, oh là là, il y a mon téléphone, oh là là, j'ai une notification, tiens, je viens de recevoir, oh bah tiens, je me rends compte que j'ai gagné 10 abonnés sur Insta. Tu vois, c'est ça notre stress actuel, c'est d'avoir comme ça une surexposition à des sollicitations. Et de plus en plus, ça devient dingue. Maintenant, on est dans un monde où on est totalement et tout le temps mis aux aguets, et on a un mécanisme de survie qui est complètement inadapté à juste le stress de recevoir une notification, oh là, bip bip, il y a un SMS qui sait, oh là là, je regarde, je peux pas m'empêcher de regarder, et ça devient complètement délirant en fait.
Tout le principe de l'hormèse et de la réaction hormétique, c'est d'appliquer des stress qui soient bénéfiques pour notre santé, qu'elles soient physiques, cognitives ou émotionnelles, et essayer de
Bien sûr.
limiter cet impact du stress chronique qui est plutôt délétère.
En fait, il faut comprendre, bah ça c'est quelque chose que bah, j'expliquerai certainement au sommet de l'hypersanté, il faut comprendre d'où vient le mot stress et ce que signifie le mot stress. Comme ça, au moins, si on revient un peu à l'origine, on va comprendre. Stress, c'est un mot qui a été appliqué à la métallurgie. C'est un mot anglais, ça veut dire contrainte. Appliqué à la métallurgie. Okay? Imagine, ça c'est une plaque de métal. Eh ben en fait ça quand j'appuie dessus je la stresse, voilà, j'applique dessus une contrainte. Eh ben n'importe quelle barre de métal, n'importe quelle plaque de métal, quand tu envoies un stress, quand tu appliques une contrainte, elle va rebondir, elle va avoir une force élastique, et ça c'est on va dire le stress aigu, d'accord? Et elle revient toujours à son point de départ. Mais par contre toutes les barres de métal, elles ont un point de rupture qui fait qu'il y a un moment où on plie. Ça pourra plus, ne pourra plus revenir. Et l'être humain, c'est exactement la même chose. On a tous un point de rupture qui fait qu'à un moment, on peut pas revenir. Alors, on peut essayer de redresser, mais tu sais, une barre de métal qui a été tordue, même si tu la redresses, elle retrouvera pas sa forme originale. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que le stress, à partir du moment où si j'applique une contrainte aiguë et ça me donne la force, ah, pour rebondir, ça, c'est positif. À partir du moment où on arrive à un point de pliage, à partir du moment où on arrive à un point de rupture et que même en repoussant, on n'arrive pas à retrouver la forme de base, là, à ce moment-là, dans le stress négatif. En fait, il faut faire la différence entre la solidité. La solidité, c'est j'appuie sur ma barre, elle ne veut pas bouger. Ça, c'est la solidité. Il y a la résilience. La résilience, c'est j'applique une contrainte et elle revient à sa forme initiale. Ça, c'est la résilience. Et le stade ultime, et c'est en ça que l'hormèse est faite. C'est j'applique une contrainte et elle redevient plus forte. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'antifragilité. Et là, ça veut dire qu'après, ça va être plus difficile de la plier. Et ça, c'est le but de l'hormèse. Le but de l'hormèse n'est pas la résilience. Le but de l'hormèse, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire d'arriver autant que faire se peut à repousser les limites du pliage.
Ok, on va parler des bilans longévité, les bilans biologiques pour tes clientes et tes patients. Comment tu envisages, toi, les bilans biologiques?
Alors les bilans biologiques, il faut déjà comprendre que, comme l'on l'indique, ce sont des bilans biologiques et donc ça fait partie des examens dits complémentaires. C'est-à-dire que Ça n'a aucun sens si on n'a pas une connaissance de la personne, si on ne connaît pas son mode de vie, si on ne connaît pas ses antécédents personnels, ses antécédents familiaux. Et le bilan biologique n'a d'intérêt que quand il va être confronté à différents paramètres, comme par exemple également des bilans d'imagerie. En soi, un bilan biologique, finalement, c'est juste une photographie à l'instant T et d'une partie de l'être humain. Tu vois, par exemple, un bilan biologique type CRP hypersensible, c'est un signe qui est, comme son nom l'indique, hypersensible, mais très peu spécifique. C'est-à-dire qu'une CRP hypersensible, ultrasensible, pardon, on peut la trouver dans tout un tas de pathologies, comme des choses pas forcément très graves, encore que une infection dentaire, tout comme ça peut être un signal faible d'une problématique cardiaque. Donc toujours bien considérer le bilan biologique dans la globalité de l'être humain et pas uniquement focus dessus comme si c'était le Graal.
Et sur les processus de vieillissement, quels sont les piliers de santé que tu vas analyser en priorité?
Bah de toute façon, je dirais que l'un des plus importants, ça va être tout ce qui va être lié à l'inflammaging et au vieillissement par oxydation, c'est-à-dire le plus souvent dû à l'hyperinsulinisme. Donc, je pense qu'un des paramètres les plus intéressants, ça va être tout ce qui va être autour du métabolisme du sucre. Donc, bien évidemment, une glycémie, encore que ça donne vraiment uniquement un focus extrêmement précis sur l'instant T. Ce qui est plus intéressant, c'est l'hémoglobine glycée qui va donner les variables de la glycémie sur les semaines qui précèdent, et encore peut-être plus intéressant, le HOMA, qui est un signe assez précurseur et précoce de l'insulinorésistance, donc d'une situation qui peut exposer au diabète.
Donc tu vois cette santé métabolique comme le curseur de notre vieillissement, en tout cas un des curseurs.
C'est un des curseurs, c'est peut-être. Alors, je pense que c'est un des curseurs sur lequel on a le plus de prises assez faciles, en fait, parce qu'il y a quand même des curseurs qui vont être un peu plus compliqués ou qui vont nécessiter, je dirais, un peu plus de finesse. Quand on prend par exemple l'homocystéine, qui est un marqueur bah, que à mon avis, tu dois bien aimer parce que tu as suivi l'enseignement de Castro, et Castro, il adore l'homocystéine. C'est un super marqueur, mais ça nécessite voilà une prise en charge un peu plus complexe, c'est un peu plus fin. Et puis finalement, les variations de l'homocystéine sont peut-être moins faciles à appréhender que les variations de la glycémie ou du HOMA. Parce que
Ok, est-ce
finalement,
que
c'est relativement simple.
tu pourrais rentrer plus en profondeur de l'homocystéine, dans quoi elle se place et quel est l'impact sur notre santé?
Alors d'une manière extrêmement simple, l'homocystéine, en fait, c'est la produit de dégradation de la méthionine et c'est un carrefour de différents mécanismes biologiques et biochimiques qui vont intégrer différents éléments, notamment des vitamines du groupe B. Et c'est un facteur qui est aussi influencé par une variabilité génétique qui s'appelle le gène MTHFR. Et il y a à peu près 20-30% de la population qui a une variation du gène MTHFR qui peut avoir des effets sur l'homocystéine. Pour donner un exemple, quand j'étais jeune étudiant, on considérait que toutes les femmes devaient avoir de la vitamine B9, hein, des folates, pendant la grossesse. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait de l'effet chez certaines femmes et qu'il n'y avait pas d'effet chez certaines autres femmes. On comprenait pas forcément pourquoi. Et bien, tout simplement parce que ce marqueur génétique, MTHFR, va permettre de métaboliser d'une certaine façon la B9. Et donc, ces personnes qui ont une mutation MTHFR ne peuvent pas utiliser la B9 normale. Il faut utiliser une forme particulière. Donc, c'est pour ça que je dis que l'homocystéine nécessite peut-être une appréhension un peu plus fine que tout simplement la glycémie. La glycémie, ce qui est relativement facile, c'est que la faire varier, il suffit de diminuer sa ration de sucre, quel que soit l'apport glucidique, mais il suffit de varier la ration de sucre pour avoir des effets.
Ok. Et donc dans chaque pilier, à chaque fois, l'homocystéine, tu vas pas la mesurer seule, tu vas avoir l'ensemble des cofacteurs pour avoir une meilleure
Toujours.
compréhension de ce pilier, ouais.
Toujours. En fait, un marqueur isolé n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Je dirais que ce qui serait évidemment intéressant, mais pas malheureusement pas autorisé en France, ça serait de savoir si on est porteur d'une mutation MTHFR. Voilà, mais là, c'est plus compliqué à le faire parce que Ça nécessite un laboratoire spécialisé et puis tout le monde n'y a pas accès. Mais en tout cas, voilà, ça serait assez intéressant. Déjà, l'homocystéine est un très très bon marqueur et c'est vraiment aussi à prendre en considération comme un marqueur de risque cardiovasculaire. Il y a également un lien entre l'homocystéine et même des maladies mentales. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant comme marqueur.
Oui, parce que l'homocystéine, en fait, après, elle se dégrade en homocystéine thiolactone qui vient impacter notre épithélium, c'est ça, au niveau
C'est pour ça que c'est
cardiovasculaire.
un marqueur assez précoce, au niveau cardiovasculaire et puis aussi cérébral.
Et donc, en fait, si par exemple, tu as l'ensemble de ces marqueurs, l'homocystéine et l'ensemble des cofacteurs qui t'amènent à avoir une idée, tu vas explorer à travers une imagerie cardiovasculaire derrière?
S'il y a des antécédents médicaux, si j'ai un bilan lipidique qui n'est pas normal, là encore, c'est vraiment important de considérer la personne comme une globalité et pas juste être fiché sur un paramètre. Mais tu vois, dernièrement, j'ai eu une personne qui était, tu m'avais demandé mon avis sur un bilan. Il y avait vraiment des petits signaux extrêmement faibles au niveau du métabolisme lipidique et de l'homocystéine. Et je lui ai envoyé faire un bilan cardiovasculaire un peu précoce, en l'occurrence un score calcique qui a montré qu'il y avait des signaux faibles, primitifs, mais de pathologie cardiovasculaire, donc ça a matché.
Ok. Bon, c'est ça. Après, les bilans longévité, c'est que tu vas aller chercher des marqueurs qui sont un petit peu plus fins, un petit peu plus en prévention. C'est le cas de, par exemple, de la CRP ultrasensible.
Oui, tout à fait, voilà, la CRP ultrasensible. Mais là encore, la CRP ultrasensible est très très sensible, comme son nom l'indique, mais elle est très peu spécifique. En fait, sensible, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et spécifique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement sur un seul paramètre. Et c'est là où c'est pas forcément simple, c'est qu'il y a énormément de paramètres qui sont très sensibles et qui sont assez peu spécifiques. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire le lien et qu'il faut arriver à faire une espèce de synthèse, ce qui n'est pas forcément évident.
Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de la CRP, quel est son rôle dans l'inflammation et pourquoi la CRP ultrasensible peut nous permettre de définir une inflammation de bas grade?
C'est un marqueur très précoce de l'inflammation. Alors après, tu me parles de l'inflammation de bas grade. Oui, l'inflammation de bas grade, elle va rentrer en considération par rapport au vieillissement, par rapport à tout ce qui va être l'inflammaging. Mais en fait, la CRP, ça veut un peu tout et rien dire. Tu vois, par exemple, comme tu sais, je suis anesthésiste. En post-opératoire, tous les patients, ils ont une CRP augmentée. Donc en soi, la CRP ne veut pas forcément dire grand-chose à partir du moment où elle n'est pas dans un ensemble. À partir du moment où il y a une chirurgie, une intervention chirurgicale, il y a une agression finalement cutanée, il y a une inflammation et il va y avoir une augmentation de la CRP. Donc c'est vraiment important de voir tout. Je reviens toujours sur le contexte, le contexte, le contexte.
Dans ta vision des bilans de longévité, là, tu analyses différents piliers. Tout à l'heure, tu as abordé le profil lipidique avec les biomarqueurs qui sont classiques, mais il y a aussi l'APOB, la LPA, qui te
Bien
permettent
sûr, le
d'affiner
plus,
encore ta compréhension.
l'un des plus intéressants, c'est le LPA, puisque lui, il change, pour ainsi dire, pas au cours de l'existence, c'est génétique. Donc, ça permet vraiment de savoir si on a une potentialité, je dirais, génétique, d'avoir des problèmes, liés au métabolisme lipidique. Et donc, potentiellement
C'est vraiment cette
cardiovasculaire.
prédit. C'est ça, hein, il y a 20 à 30% de la population qui a un niveau de LPA qui est plus élevé.
Bon, de toute façon, c'est ce que je disais, tout ça, c'est des choses qui sont assez récentes. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on parlait absolument pas du LPA. Maintenant, c'est un des signaux faibles qui intéresse le plus les médecins en prévention et les cardiologues. Les cardiologues sont très intéressés par le LPA. De toute façon, là encore, moi, je suis très aussi dans l'idée de se dire qu'on ne peut pas gérer tout seul. Et dès que j'ai le moindre doute, dès que je trouve des signaux faibles, moi j'envoie au cardiologue. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment toujours rester dans son champ de compétences. Et comme je te dis, le bilan biologique, il fait pas tout. Dès qu'on a le moindre doute, il faut aller faire des investigations, et aller plus loin.
Ok. Oui, c'est vraiment le travail pluridisciplinaire de venir déléguer quand il y en a besoin. Et comment tu observes l'ensemble des micronutriments? Moi, personnellement, j'ai fait des analyses et j'ai vu que j'avais vraiment un terrain en micronutriments qui était très affaibli. Comment tu pourrais expliquer aux auditeurs de 1000% bah, l'ensemble de ces micronutriments?
Évidemment, on peut faire des dosages d'énormément de micronutriments et ça peut être pertinent. Maintenant, l'inconvénient des dosages de ces micronutriments, c'est qu'il y a des variations. Ça bouge pas mal. Par exemple, si tu fais un truc tout simple, hein, si tu fais un ionogramme maintenant, tu vas avoir, je dis n'importe quoi, 138, mettons, de sodium. On va refaire le bilan ce soir, tu auras peut-être 142. Donc finalement, les ions, les micronutriments, c'est des choses qui bougent énormément. Donc là encore, il faut être dans le contexte. Tu vois, si on prend, mettons le magnésium, on dose le magnésium et on le trouve normal, mais on a affaire à quelqu'un qui a des petits clignements de l'œil. On peut supposer que même si le bilan montre que le magnésium est normal, on peut supposer qu'il y a une carence en magnésium. Faut être toujours. Pour ça, je disais, faut confronter les bilans à la clinique. Après. Ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus être trop obsessionnel des micronutriments. Par exemple, il y a des personnes qui, sous prétexte qu'on leur dit qu'on est carencé en sélénium, ils vont se manger des tonnes de noix du Brésil en se disant c'est plein de sélénium, c'est super. Mais manquer de sélénium, c'est une pathologie. Mais avoir trop de sélénium, c'est une pathologie aussi. Là encore, il faut vraiment faire très attention. C'est le cas aussi des vitamines. On se retrouve très facilement en hypervitaminose. Quand on se supplémente, parce que bah, on fait pas forcément attention à tout ce qu'on va prendre.
Oui, d'où l'intérêt de bilanter, de se faire accompagner et de ne pas prendre des suppléments, des compléments à l'aveugle.
À fait.
Et sur la santé intestinale, qui dirige en grande partie notre santé, est-ce que tu as des marqueurs, comment tu analyses en fait la santé intestinale, tu sais, tout l'écosystème entre le microbiote, l'interface intestinale et puis
Alors,
le système
moi, je suis
immunitaire
très
qui se met
très
derrière.
humble par rapport à ça. Je suis très humble par rapport à ça. C'est pas ma spécialité. Et quand je suppose qu'il y a quelque chose, j'envoie vers quelqu'un qui dont c'est la spécialité. Mais moi, c'est pas moi, c'est pas complètement ma came, quoi.
Ok. Pourquoi? Enfin, c'est pas dans ta prise en charge de la santé globale, c'est pas un axe important dans ta vision.
Dans une vision vraiment longévitaire, bien sûr, l'influence du microbiote, ça fait partie des 12 hallmarks of aging, donc c'est à prendre en considération. Mais en tout cas, aller faire l'analyse fine du microbiote ou de tout ça, voilà, c'est pas moi dans ma zone d'excellence et je préfère envoyer chez des gens qui connaissent vraiment bien ça. Voilà, par exemple, de la même façon, je te dis, moi, je suis pas cardiologue, donc quand j'estime qu'il faut un avis cardio, j'envoie chez le cardio. Je suis pas pneumologue, mais j'estime que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un avis pneumo, j'envoie chez le pneumo. Je pense que c'est vraiment important, voilà, d'être un peu à l'interface. Moi, ce que je connais, c'est la médecine de la longévité dans sa globalité. Après, je vais aller vers tel ou tel spécialiste, à partir du moment où j'ai besoin d'un avis un peu plus précis. Il faut
Bon,
toujours
bah,
rester dans sa
pour
zone.
finir,
Dans sa zone.
je pense que tu es un mitochondrologue. Je ne sais pas si ça existe, comme professeur Castronovo aussi, qui va au sommet de l'hypersanté nous faire une conférence sur la médecine mitochondriale.
J'irai
Comment
l'écouter avec
tu
plaisir.
places toute cette santé mitochondriale dans tes bilans longévité?
Bah, la mitochondrie, alors vraiment, moi j'invite les personnes à aller assister à ce que va raconter Castro parce que c'est hyper intéressant. L'évaluation de la mitochondrie, c'est pas quelque chose qui est évident. Après, on peut prendre des compléments alimentaires, on peut prendre du PQQ, des coenzymes Q10, etc. Mais je pense qu'effectivement, l'évaluation un peu fine de la mitochondrie, c'est vraiment une marque d'avenir.
On attend la conférence sur le stress hormétique que tu vas nous dire au sommet de l'hypersanté. Il y aura Castronovo, il y aura Anthony Berthoud aussi qu'on a reçu sur le podcast. Même nous, 1000%, on va intervenir sur l'activité physique comme le moteur de notre longévité et donc
C'est
définir
génial.
tout ce qu'on a pu apprendre à travers le podcast. Et donc voilà,
C'est
bah, merci
génial.
beaucoup Denis pour cet épisode. On s'est régalé. J'espère que toi
Merci à
aussi.
toi.
Allez, salut!